L'évangile que nous entendons, selon la version de Marc, des tentations du Christ au désert, est spécialement remarquable par sa brièveté quand on le compare aux mêmes évangiles parallèles de Luc ou de Matthieu. Pourtant, il est deux éléments essentiels qui nous sont témoignés. D'abord, justement, le fait que le Christ soit tenté, ce qui peut nous surprendre. Mais surtout, et là il y a un élément vraiment commun qui se répète, c'est qu'il est envoyé au désert par l'Esprit Saint. Dieu serait-il divisé contre lui-même? L'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, voudrait-il tendre un piège à la deuxième Jésus? Bien sûr que non. Mais cela nous montre au contraire que c'est toute la Trinité. Ce sont les trois personnes qui sont engagées dans le sort de l'humanité, dans le salut de l'humanité. Chacune à sa place. Que devons-nous entendre par ces termes « Pendant 40 jours, il fut tenté par Satan » Il me semble que la première lettre de Saint Pierre nous donne des indications particulièrement éclairantes. Ce passage que nous avons entendu comme deuxième lecture, où il est dit, il est rappelé que Jésus a souffert pour les péchés. Nous ne devons pas entendre simplement cette expression comme rappelant la croix, la passion, mais beaucoup plus dans le fait que Jésus a voulu assumer dans sa personne, bien avant l'heure de la passion, le drame de la séparation de l'homme d'avec Dieu, c'est-à-dire le péché. Ce drame, il l'a assumé dès le début de son existence. Il est même venu pour y répondre. Il l'a assumé dans sa personne pour en annihiler toute la malice, en faire disparaître toute la puissance de rébellion que contenait le péché depuis Adam et Ève, et toute la puissance de mort. Toute la puissance de rébellion, Saint Pierre nous le dit quand il cite ceux qui avaient refusé d'obéir. Jésus vient exactement faire l'inverse. Face à cette rébellion de l'homme, refusant de se soumettre, lui va obéir. Et comme nous le savons, il obéira jusqu'à la mort. Rébellion, disais-je, mais rébellion qui conduit précisément à la mort. Or Jésus, dans sa personne, là aussi, va aller jusqu'au bout, puisque non seulement il accepte de mourir, et comme dit saint Paul, pas de n'importe quelle mort, la mort de la croix. Mais ce n'est pas le point final, puisque justement, son Père va le ressusciter. Dit en d'autres termes que nous trouvons dans la lettre de Saint Pierre ce matin, il a été vivifié dans l'Esprit. Nous voyons bien donc très clairement que chacune des personnes intervient dans le mystère de notre salut. Même si c'est Jésus qui, en son humanité, vient nous le révéler. Et il y a un lien étroit entre ce combat que Jésus a voulu assumer jusqu'au bout contre le péché, pour le vider de toute sa puissance maléfique et mortelle, et notre propre baptême, dont parle précisément aussi cette lettre de saint Pierre. Baptême qui est décrit comme une œuvre divine dynamique, puisqu'il s'agit, pour reprendre l'expression de saint Pierre, de l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Un engagement qui est donc à vivre au fil de la vie. Un engagement qui n'a rien à voir avec une passivité, avec quelque chose qui aurait été reçu une bonne fois pour toutes et que l'on oublierait. Non. Il s'agit vraiment d'un sacrement qui, à chaque instant, nous oblige un choix, à l'exercice de notre liberté en vue du bien. Et c'est ce que dit très bien la préface que nous entendrons tout à l'heure. Quand on nous dit que Jésus, en acceptant d'assumer la tentation dans sa plus grande profondeur, nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ou encore, qu'il déjouait les pièges du tentateur des origines. Voilà donc explicité de manière particulièrement forte ce qu'il y a derrière la tentation, ce que le Christ décide d'assumer jusqu'au bout. Les conséquences sont énormes pour nous. La première, certainement, c'est que nous saisissons que ce combat permanent qui se joue dans notre cœur contre le péché, contre cette puissance de mort, nous ne l'assumons plus seuls. Jésus nous y précède, toujours. Et il nous y précède comme vainqueur, car lui a totalement vaincu cette tentation, totalement et définitivement. Sans que pour cela reste extérieur à nous, parce qu'il nous fait participer à sa propre victoire. Donc non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous savons que dans le Christ, la victoire est déjà remportée. Ce qui signifie que si nous consentons à être unis à lui, nous aussi sommes victorieux de ce péché. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, quand ce labeur incessant nous paraît laborieux, difficile, voire presque impossible, et peut-être fort décourageant à ces heures, Jésus ne revient jamais sur cette victoire qu'il a remportée pour nous et avec nous. Il maintient perpétuellement son alliance. Le maintien de son alliance n'est heureusement pour nous pas dépendant de notre fidélité ou de notre infidélité. Et cela, c'est la première lecture qui nous le rappelle avec force. 5 fois, nous trouvons affirmé l'alliance que Dieu noue avec Noé. C'est pas simplement l'alliance. 3 fois est appliqué à ce terme un adjectif possessif qui en dit long. Mon alliance, c'est Dieu qui parle. Mon alliance avec vous. Mon alliance de moi avec vous, c'est répété 3 fois. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Sinon que, d'abord, c'est Dieu qui prend l'initiative. Et en cela, il y a une fermeté, parce que Dieu est vraiment ce rocher inexpugnable. Et deuxièmement, il nous dit aussi une garantie de perpétuité. Non seulement cette alliance est solide, parce qu'elle repose sur Dieu lui-même, mais il ne reviendra jamais en arrière. Il ne reprendra jamais cette alliance. Et cela nous est dit aussi dans ce texte du livre de la Genèse que nous entendions, cet épisode de Noé. Cette alliance est nouée avec tous les vivants pour les générations à jamais, c'est-à-dire pour toujours. Toutes les générations qui se succéderont sur cette terre peuvent bénéficier de cette alliance, de cette assurance de ce Dieu qui demeure à jamais fidèle. Et finalement, nous comprenons peut-être mieux maintenant les paroles finales que nous entendions dans cet évangile, parce qu'au fond, c'est là qu'est concentré le cœur de la bonne nouvelle. Le cœur de l'Évangile. Je le répète parce que ce sont les simples mots que Jésus lui-même utilise pour inaugurer sa prédication. Mais tout est déjà dit là. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Les temps sont accomplis parce que le Christ est là, qui assume ce combat titanesque contre le péché. Non seulement qu'il l'assume, mais qu'il le remporte. Le règne de Dieu est tout proche. Ce règne, ce n'est pas un règne politique. Ce règne, c'est une personne, c'est lui-même. Et il est tout proche. Il est juste à la limite de notre liberté. Il ne s'impose jamais, mais il s'offre toujours à nous de consentir à lui répondre alors qu'il est si proche. À nous d'accepter de nous convertir, de nous tourner vers lui. Et ainsi pourra être affermie notre foi. Croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle.